RCF.
L'année 2017 marque trois anniversaires concernant le mouvement ATD Quart Monde. Les 100 ans de son fondateur, le père Joseph Wrzesinski pour commencer, les 60 ans de la fondation du mouvement et enfin les 30 ans de la journée mondiale du refus de la misère. Une aventure extraordinaire liée à un homme extraordinaire, le père Joseph Wrzesinski, donc né le 12 février 1917 et mort en 1988. Axelle Brodier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne au CNRS, vous êtes spécialiste de l'histoire de la pauvreté et, pour faire simple, de la lutte contre la pauvreté, ce qui inclut toutes sortes d'actions, d'engagements, de mouvements, de décisions politiques aussi.
C'est-à-dire que l'idée, c'est d'appréhender la pauvreté sous toutes ses facettes, à la fois l'attitude des pouvoirs publics vis-à-vis de la pauvreté, mais aussi les associations de solidarité, anciennement associations caritatives, puisque quasiment toutes sont de matrice chrétienne. Donc voilà, les associations qui sont la partie privée de la lutte contre la pauvreté et qui coopèrent avec les pouvoirs publics constamment, qui les titillent, qui mettent en application aussi les lois. Et puis, tout ce qui est la pauvreté elle-même, parce que la pauvreté de 1914, la pauvreté de 1945, et la pauvreté aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes et donc elles n'arrêtent pas de se recomposer et donc voir tout ça ensemble, c'est une alchimie qui reflète notre société, qui reflète l'attitude générale des gens, l'économie, le social, etc.
Comparer le père Joseph Wrzesinski à l'abbé Pierre, ça vous paraît une approche pertinente ?
Alors c'est une approche complètement pertinente pour plein de raisons. Ils sont de la même génération puisque l'abbé Pierre est né en 1912. Alors ils ont des parcours assez différents parce que l'abbé Pierre est de famille bourgeoise et le père Joseph est de famille très pauvre. Mais ils ont créé leurs associations quasiment au même moment puisque on va le voir, l'ATD est en fait une émanation par scission d'Emmaüs, que les deux hommes se sont connus, qu'ils se sont énormément appréciés mais aussi énormément affrontés, que chacun traite une facette de la pauvreté à cette époque-là. L'abbé Pierre a plutôt créé des communautés pour les hommes isolés. Les compagnons d'Emmaüs, c'est des communautés d'hommes, aujourd'hui un peu de femmes, mais il n'y a quasiment pas de famille. Alors que le père Joseph, tout de suite, s'est centré sur la pauvreté des familles. Donc c'est vraiment des parcours qui se sont croisés avec des approches très complémentaires. Les deux sont très centrés sur la dignité de la personne. L'abbé Pierre a une approche peut-être plus économique, la dignité par le travail, et le père Joseph plus culturel, la pauvreté par le savoir, l'expression, la conscience de soi, etc. Donc oui, c'est complètement pertinent et c'est les deux plus grandes figures du traitement de la pauvreté contemporaine au XXe siècle dans son ensemble.
Vous avez souligné les origines très modestes de Joseph Wrzesinski. Modeste, c'est peu dire, puisque c'est quelque chose qui aura très profondément marqué non seulement son enfance, mais ce qu'il était fondamentalement.
Oui, c'est-à-dire que de tous les grands fondateurs des associations de solidarité, c'est le seul qui ait vraiment expérimenté la misère dans sa chair. Alors son père était polonais, sa mère était espagnole. Ils arrivent en France au moment de la déclaration de la Première Guerre mondiale et donc tout de suite ils se retrouvent internés dans des camps, stigmatisés, etc. C'est un parcours de discrimination, d'exclusion. Son père était ingénieur mécanicien en Pologne. Il voulait devenir horloger en France. Il a jamais réussi. Il était vieux. Violent à la maison. Et finalement, il va repartir en Pologne et il va laisser la femme et les enfants tout seul en France. Et donc, le père Joseph a eu une enfance de misère. Le terme de misère, c'est sans doute ATD Quart Monde qui lui a donné une vraie connotation scientifique. C'est une des spécificités aussi d'ATD Quart Monde, c'est d'avoir cherché à la comprendre, cette misère. Scientifiquement, de mettre des chiffres, de mettre du qualitatif, du quantitatif. Et la misère, c'est quand la dignité de l'homme, elle est bafouée, quand on devient un infra-humain. Quand on est pauvre, on pourrait dire que c'est juste économiquement parlant, vous avez du mal à boucler vos fins de mois, voire vous n'y arrivez pas. Mais vous pouvez continuer à avoir une vie digne, à vous sentir inséré dans la société. La misère, c'est l'infra-humain. Ils ont aussi forgé des termes comme le sous-prolétariat, avec l'idée que le prolétariat, c'est une couche qui a été politiquement et petit à petit économiquement intégrée. Les sous-prolétaires, c'est une couche atomisée qui ignore même qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation. Donc tout l'objectif de ce mouvement va être de leur donner une identité, une existence en tant que couche sociale, ou quasiment en tant que classe, et de leur faire accéder à la dignité et à l'insertion économique, professionnelle, à la reconnaissance, etc. Donc c'est quelque chose de très très fort en termes de conception.
J'étais un enfant qui a connu ce que les pauvres peuvent connaître
Le père Joseph Wrzeszynski, dans l'émission Radioscopie du 7 mai 1973.
De privations matérielles, bien sûr, mais plus que des privations matérielles, de privations d'échange, d'amitié, de compréhension, de rencontre.
Ce n'était pas tellement le manque d'avoir, c'était le manque de savoir.
Si, l'argent a une grande place chez les pauvres. On ne parle que d'argent. On ne parle que d'argent, mais on dit l'argent ne fait pas de bonheur, mais on sait très bien que si on n'a pas d'argent, on n'a pas de bonheur parce qu'on n'a pas l'autre. On rencontre jamais l'autre.
RCF, Véronique Alzieu.
Pour en revenir à l'enfance et à la jeunesse du père Wrzeszynski, il aura passé une partie de cette jeunesse à Angers.
Oui.
Parce que, en fait, donc, la famille arrive à Paris en 1914 et le père a un passeport allemand. Du coup, il est identifié comme un ennemi potentiel et les ennemis y sont enfermés. On les interne au fort de Saumur, d'Angers, et la famille va passer toute la guerre enfermée. Il y a un enfant qui va mourir en bas âge et le père Joseph va naître en 1917.
Dans l'internement. La famille est internée quand il naît.
Elle est internée.
Le père Joseph Wrzeszynski raconte aussi à quel point il a été marqué par une communauté de sœurs chez qui, déjà tout petit, contre un peu de pain,
oui,
il était enfant de cœur.
En fait, la famille était tellement pauvre que ses sœurs du Bon Pasteur, grande communauté historique très connue, proposent à la famille en échange, effectivement, alors on ne sait pas trop, suivant les témoignages, c'est un repas de midi pour lui et sa famille, ou un morceau de pain le matin, ou peut-être les deux, ou peut-être ça dépend des sources, que le père Joseph vienne servir la messe. Il y a des témoignages qui disent à partir de 4 ans et demi, les historiens trouvent que c'est peu crédible, mais sans doute 5 ans, 6 ans. Donc depuis quand même tout petit, tous les matins, il se levait extrêmement tôt.
Aux aurores.
Il traversait la rue, il s'en allait dans le petit matin froid, etc. Il allait servir cette messe et il allait gagner un minimum de nourriture pour faire vivre ou survivre sa famille. Et il rentrait et là, sa journée d'enfant commençait. Donc vous imaginez ce que ça représente, ça ponctue le quotidien. Et donc la religion, évidemment, elle est devenue tout de suite omniprésente par la figure de ses sœurs. Mais aussi, c'est se lever aux aurores et c'est aller gagner le pain de sa famille.
Il y a eu tellement de souffrance, tellement de peine. Papa n'écrivait plus, on ne savait plus, on n'avait plus d'argent. Et on pleurait, ma mère pleurait. Moi, j'allais bien voler à droite et à gauche des fleurs pour lui apporter, faire des petites délicatesses comme ça. Et puis, un beau jour, c'était un peu mieux, un petit peu de soleil est venu dans la maison. Et puis, on a regardé la cage du chardonneret. Il était mort. C'est ça la misère. Ne jamais pouvoir être sûr de garder ce qu'on aime.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des études ?
Non, pas vraiment. Enfin, il a fait le minimum et à 13 ans, il a été placé comme apprenti boulanger-pâtissier. Il se définit plutôt comme pâtissier. D'ailleurs, après, dans le camp de Noisy, il donnera des fois des cours de pâtisserie aux femmes. Il n'avait pas beaucoup de temps, donc il n'en a pas donné beaucoup.
Avant d'entrer au séminaire, cette vocation sacerdotale, c'est une vocation qu'il faut mettre dans un contexte ou bien il y a vraiment pour lui quelque chose qui s'impose en termes de foi et d'expérience de Dieu?
D'après ce qu'on peut retracer, c'est oscillatoire. C'est-à-dire qu'il a été marqué par la religion, par les sœurs du Bon Pasteur. Et sa mère était très croyante et très pratiquante. À Angers, elle pratiquait dans sa paroisse. Elle avait inscrit ses enfants au patronage du jeudi, du dimanche, etc. Donc ils étaient très insérés dans la sociabilité catholique de la paroisse. Il a fréquenté la religion, elle a emprunt l'enfance du père Joseph. Après, il s'est distancé, visiblement. À un moment, il a été plutôt dans les jeunesses socialistes, il y a passé quelques mois. Et puis, il est revenu au catholicisme par la JOC. Et là, il a redécouvert, mais autre chose, une autre facette du catholicisme, parce que la JOC...
Jeunesse ouvrière chrétienne.
Voilà, c'est les enquêtes en milieu ouvrier, voir, juger, agir, c'est l'apprentissage de l'enquête sociologique. C'est une autre façon de découvrir la pauvreté, les milieux prolétaires, urbains, etc. Et c'est à partir de là qui décide véritablement de préparer des études pour entrer au petit séminaire. Et donc, il entrera à 17 ans au petit séminaire. Et donc, il fait plutôt partie de ce qu'on appelle les vocations tardives. Et en plus, après, son parcours va être un petit peu perturbé par le régiment, la mobilisation, la guerre. Donc voilà, ça va traîner. Et finalement, il est un prêtre un peu sur le tard.
Tenté par la mission de France.
Il est très tenté par la mission de France. Ça, c'est un petit peu après. Son parcours vers la prêtrise est perturbé par la Seconde Guerre mondiale. En fait, il doit
être mobilisé au régiment, donc il fait ses classes en 37. Après, il doit être libéré, arrive 39, il est remobilisé. Il est fait prisonnier par les Allemands, il s'évade. Finalement, il re-rentre au séminaire, au grand séminaire en 1940. Il est assez attiré par le social. On le voit à la fin de la guerre, dans les années 44-45, s'occuper des enfants des quartiers pauvres, demander à faire un stage aux peintures Valentine, donc à rentrer dans le monde ouvrier déjà. Il travaille un mois dans des mines dans le Nord. Donc on le voit vraiment se rapprocher du monde ouvrier. Donc il est ordonné prêtre en juin 46 à Soissons. Et là commence son parcours de prêtre. Il passe d'abord 2 ans dans... il faut quand même dire que sa devise sacerdotale, c'est « va au large, jette tes filets ». Donc c'est aussi quelque chose d'assez missionnaire, un tropisme vers le monde ouvrier. Il fait 2 ans dans une paroisse ouvrière, donc à Ternier, de 46 à 48. Et là, il est attiré par la mission de France. C'est à partir de ces années 48, il demande à faire des expériences en mission. Il va être perturbé aussi par la maladie, il va partir en Sana, il revient, il fait plusieurs missions et il demande finalement son incorporation à la mission de France. Et c'est là où la mission de France ferme et donc du coup il ne peut pas y aller.
Donc il reste prêtre diocésain.
Et donc du coup retour la prêtrise. Voilà, cette fois-ci c'est à la paroisse de Duizel, donc c'est un peu plus rural. Et là il va être un prêtre assez atypique, il se met en bleu de travail, il travaille au champ, etc. Donc c'est vraiment son tropisme très social.
On vous retrouve demain pour poursuivre, Axel Brodier. Merci.